T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique des bibliothécaires de Bourg-en-Bresse. Aujourd'hui au micro, on aura Suzy pour une bande dessinée, Laurence avec un roman policier, Mélanie pour de nouvelles revues, et moi-même Kevin, qui ai aujourd'hui envie de vous parler d'un de mes coups de cœur de 2025, un premier film d'une jeune réalisatrice. Je vais vous parler de On ira de Enya Barou. Alors déjà, c'est qui Enya Barou ? C'est peut-être son premier film, mais vous l'avez sûrement déjà vu. Pourquoi ? Déjà parce que c'est la fille de Olivier Barou, le haut de KDO. Et parce qu'elle a joué dans quelques films, sketchs et séries télé, jusqu'à 2023, où elle co-réalise une web-série, diffusée plus tard sur Canal+, intitulée Fleur bleue. Dans chaque épisode de 2-3 minutes, on découvre Fleur, interprétée par Enya, une jeune femme avant, pendant ou après un coup d'un soir. Chaque personne qui défile dans son lit est l'occasion de découvrir un sujet de société, de déconstruire un cliché et surtout, surtout, de bien se marrer. On parle éco-anxiété, épilation intégrale, kink chelou, religion, bref, je vous conseille, mais on n'est pas là pour parler de ça. Pour On ira, cette fois, elle réalise seule et elle reste derrière la caméra. Par contre, elle a choisi un casting exceptionnel que je vais vous présenter juste après le synopsis du film. Alors de quoi ça parle ? Marie est une octogénaire qui vient d'apprendre le retour de son cancer. Elle se sait condamnée et ne veut pas souffrir. Elle choisit donc le suicide assisté, autorisé en Suisse. Cependant, incapable de l'annoncer à sa famille, elle invente une histoire d'héritage à aller récupérer dans le pays voisin afin de se lancer avec eux dans un dernier road trip. Oula, pas très fun, dis donc. Et pourtant, l'engagement d'Enya Barou est encore une fois de nous faire rire. Et pour ce faire, elle nous gratifie de personnages tous plus attachants les uns que les autres. Il y a Bruno, le fils de Marie, interprété par David Ayala, croulant sous les dettes, immature, incapable de communiquer correctement avec sa fille. Sa fille, Anna, donc, interprétée par Juliette Gasquet, que vous avez peut-être déjà vue comme la stagiaire dans la série Fiasco. Et enfin, Rudy, l'auxiliaire de vie de Marie, embarqué contre son gré dans cette aventure via un chantage de Marie. Rudy qui est campé par Pierre Lottin, ex-Wilfried Tuche, qui n'en finit plus de nous épater après son rôle dans Enfant phare. Tout ce beau monde dans un camping-car des années 80 pour un road trip familial qui rappellera Little Miss Sunshine. Tout repose sur l'interaction entre les personnages, la cohabitation forcée, les non-dits, l'amour qu'ils se portent. Avec ce film, Enya Barou voulait rendre hommage à sa grand-mère, et c'est réussi à mon sens. Entre tristesse et comédie, légèreté et respect, elle aborde un sujet dur, la fin de vie. Le film fait 1h30, sans temps mort, et rien que ça, c'est un argument. Bref, je vous le recommande fort, fort, fort. Vous pourrez emprunter le DVD à la médiathèque Camus. Et à l'heure où vous entendez ça, il est peut-être encore disponible en streaming sur sofa.1, les ressources en ligne offertes par le département, dont vous pouvez bénéficier via les médiathèques de Bourg. N'hésitez pas à nous demander. Et sur ce, je laisse la parole à Suzy.
Qui a dit que les gens ordinaires n'avaient pas d'histoire ? Bonjour, je suis très heureuse de vous présenter Beverly, qui a gagné le prix Fauve Révélation d'Angoulême en 2018 de Nick D'Ernasso, qui est l'un de mes auteurs de BD préférés. Mais attention, ce qu'il fait ne plaît pas à tout le monde. Parce que si je vous dis les mots comédie noire, oppressant, malaise ou encore voyeurisme, pas sûr que beaucoup de personnes ne se jettent dessus. Il est donc de mon devoir de vous convaincre de foncer la lire. Beverly, c'est un recueil de 6 histoires qui relatent toutes de la vie quotidienne de la classe moyenne américaine, et plus précisément, des personnes un peu perdues, dans un monde désenchanté, guidées par le métro, boulot, dodo, dans une société dirigée par le consumérisme. Au premier feuilletage de la BD, tout pourrait nous sembler plat. Les couleurs pastels, le trait minimaliste et très rigide, les cases bien carrées où rien ne dépasse d'un poil. Tout le monde est très calme et silencieux. Je crois qu'il n'y a pas un seul trait de mouvement, une seule trace de sueur, une seule exclamation dans tout l'album. C'est très sombre et figé. Les histoires d'amour ou d'amitié côtoient les pires drames, et tout sur un même pied d'égalité. Tous ces détails mixés ensemble nous déstabilisent. Ils nous déstabilisent et nous fascinent. L'une des choses que je préfère, bizarrement dans les BD de Nick D'Ernasso, c'est qu'il est le roi pour installer une atmosphère de malaise. Elle s'explique parce qu'on a l'impression d'être les voisins de ces personnages, une paire de jumelles à la main, en train d'épier leur intimité. On en est réduit au rang de voyeurs. On n'est pas censé voir cette partie misérable de leur vie et on se rend compte qu'on en veut encore plus. Parce que l'ennui est central dans le livre, à tel point qu'on en arrive à espérer que le pire ne se produise pour que tous ces non-dits et cette rigidité explosent enfin. Maintenant, avant que vous ne fonciez vous battre pour lire la BD en premier, voici le synopsis de l'une des 6 histoires de Beverly. Vierge Marie, c'est le récit d'une jeune femme qui invente un viol pour ne pas dire à ses parents qu'elle est tombée enceinte de son petit ami plus âgé. Bon, après avoir posé le cadre dans une première partie, c'était un petit aperçu du genre d'histoire qui peut s'y dérouler à l'intérieur. Enfin, je voulais terminer par le fait que Nick D'Ernasso écrit sans qu'aucune moquerie ou aucun jugement ne soit porté sur ses personnages. Peut-être parce que la plupart sont inspirés de vraies personnes ou de faits réels. Ou tout simplement parce que Nick D'Ernasso est super doué. Et maintenant, je vous laisse avec une autre personne super douée, ma collègue Laurence.
Merci Suzy. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Radio B. Aujourd'hui, je vous présente mon coup de cœur polar, Les carnets de Max Liberman, écrit par un auteur anglais, Frank Tallis, et édité chez 10-18 dans la célèbre collection Grand Détective. Frank Tallis est un docteur renommé en psychologie et un spécialiste des troubles obsessionnels. Il enseigne la psychologie clinique et les neurosciences à Londres. Il a publié plusieurs essais sur le comportement humain et sur l'histoire de la psychothérapie, puis des romans pour lesquels il a reçu de nombreux prix littéraires. Au début des années 2000, il se lance dans le roman policier historique avec les fameux carnets de Max Liberman, édités en plusieurs volumes. Cette série a pour héros l'inspecteur Oscar Reinhardt de la police viennoise et son ami et acolyte, le psychiatre Max Liberman. La justice de l'inconscient est leur toute première enquête où nos héros vont avoir fort à faire avec le cas d'une jeune médium retrouvée morte à son domicile dans une pièce fermée de l'intérieur. Pas d'arme du crime, pas de balle dans le corps de la victime. Ce crime serait-il l'œuvre d'un esprit maléfique ou un crime parfait? L'enquête s'annonce difficile, mais rien ne devrait résister à l'inspecteur chevronné qui peut compter sur Max et sa connaissance des mécanismes psychologiques. J'ai aimé ce polar qui sort de l'ordinaire. D'abord, la ville de Vienne sert de décor aux enquêtes et l'ambiance autrichienne du début du XXe est très bien rendue. L'auteur rend vivant la culture, l'atmosphère d'effervescence artistique et scientifique de l'époque. Le duo d'enquêteurs est atypique et attachant et leur relation amicale est vraiment touchante. L'histoire s'intéresse tout autant à l'enquête policière qu'au travail de psychiatre du héros et à la vie privée des principaux personnages. Elle montre bien l'intérêt de l'analyse psychologique appliquée à l'élucidation des crimes. On suit les protagonistes dans leur enquête, mais aussi chez eux, à l'opéra, dans des expos de Klimt, en pleine conversation avec Freud, et parfois en train de déguster de succulentes viennoiseries. La période historique ouvre la porte à de nombreuses réflexions. La place des femmes est encore cantonnée à la maison, mais certaines ont envie de se cultiver, de faire des études, de la politique. La psychiatrie, science naissante, est mal considérée dans une société viennoise déjà en proie à une forte montée de l'antisémitisme. L'écriture du livre a beaucoup de style et de rythme. Les dialogues font mouche et le découpage des chapitres accentue le suspense. L'intrigue rebondit souvent et bien malin qui découvrira le coupable avant les dernières pages. Voilà, il ne vous reste plus qu'à découvrir le roman à la médiathèque Camus, à l'emprunter au rayon polar. Je vous laisse à présent avec Mélanie pour la présentation des nouvelles revues.
Bonjour à tous. En automne dernier, comme tous les ans, vous avez pu voter pour sélectionner une nouvelle revue qui sera intégrée dans chaque médiathèque. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir participé en donnant votre avis et vous présente ici les résultats et le contenu de ces trois nouveaux magazines. Vous trouverez désormais à Vaillant Transfuge, un mensuel qui traite de l'actualité culturelle, que ce soit littérature, cinéma, musique, art ou spectacle. Il y en a pour tous les goûts. À Camus, place à Passion Couture, qui donnera des astuces et des idées à tous les amateurs de couture. À Césaire, vous pourrez lire La Petite Fabrique, qui accompagne le développement des petits et grands enfants sur des thématiques variées autour de la pédagogie et de la créativité. Je vais justement vous en parler plus en détail, car j'ai particulièrement apprécié sa positivité et sa douceur. Lancée il y a 7 ans, cette revue est disponible tous les trimestres pour faire le plein de découvertes et d'activités en famille, en lien avec les saisons. La Petite Fabrique, c'est 120 pages aérées avec des illustrations et des photos, divisées en 5 parties. On aura une partie créée, avec des tutos d'activités manuelles, une partie s'émerveiller, qui va explorer le lien à la nature et peut évoquer, par exemple, le chant des oiseaux, les encres végétales, nos belles régions ou encore questionner des thèmes philosophiques. Les derniers numéros abordent notamment Aimer la nature sans la posséder ou « 10 moments, c'est quoi la mort ?». La partie partagée nous amène dans les coulisses d'une profession, d'un artiste, d'un auteur. Elle nous parle des mots et de livres pour ne jamais oublier de rêver. La partie « Prendre soin, tisser des liens » est axée sur le bien vivre ensemble, sur la santé physique et mentale. On pourra donc y découvrir des recettes de cuisine, des conseils pour le corps et l'esprit. Une toute dernière partie sera consacrée à un dossier thématique. Les numéros de 2025 ont choisi « Apprendre à penser par soi-même » et « Barouder en famille ». Ce dernier fait appel à des témoignages pour s'immerger dans des projets de voyage. Quand « Penser par soi-même » nous apporte un éclairage sur l'esprit critique. Oui, puisqu'il n'y a pas d'âge pour savoir ce qui se passe derrière nos croyances. En bref, une revue pour apprendre à prendre son temps qui vous donnera envie de tester et sortir des sentiers battus. J'émets tout de même un bémol concernant les photos représentant des familles qui manquent selon moi de diversité. Je vous invite à vous faire votre propre idée et à consulter La Petite Fabrique à la médiathèque Césaire, Transfuge à la médiathèque Vaillant et Passion Couture à la médiathèque Camus. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt dans vos médiathèques.
T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.